Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Sur la question de Dieu, après avoir vu un certain nombre de généralités, nous allons voir maintenant un autre type de généralité, en fin de compte, qu'on appelle en théologie le prolégomène. Le prolégomène, c'est-à-dire les données qui permettent l'approche du problème, quoi.
C'est toujours la doctrine de Dieu.
Oui, c'est la doctrine de Dieu, toujours, oui. Prolégomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème, si vous voulez, pour prendre un mot moins barbare, mais je le cite parce que vous le trouverez parfois à la gauche, il faut le connaître un peu ce mot, c'est la question de l'existence de Dieu. Je crois que finalement, c'est à cela que ça se résume. La première remarque que nous pouvons faire sur ce problème, c'est que nous vivons dans un monde, comme nous l'avons déjà vu, dont l'immensité et l'harmonie présupposent l'existence d'un créateur puissant. Il faut automatiquement que ce créateur soit plus puissant que l'ensemble des forces de l'univers qu'il a créé. Et lorsque nous voyons justement la formidable puissance de l'univers, nous sommes amenés à tout naturellement à avoir cette idée, à percevoir et à définir des lois physiques, des lois naturelles. Et s'il y a des lois, il y a un législateur. Par conséquent, cet ensemble de données nous amène tout naturellement, et ça a toujours été la réaction naturelle de l'homme de tous les temps et de tous les lieux, donc la présence d'un créateur qui est cause et source de tout ce qui existe. Mais la Bible et le christianisme ajoutent que tout ce qui existe de bon. Parce que précisément, ce qui existe de mal n'appartient pas à la volonté de ce créateur, comme nous aurons l'occasion de le voir. Alors, voyons maintenant, passons davantage au crible, cette question de l'existence de Dieu, puisque nous vivons, comme nous avons l'occasion de le dire, dans un monde, dans une civilisation où pour la première fois l'athéisme, la négation de l'existence de Dieu même est une des bases de cette civilisation-là. Nous avons l'occasion de voir que l'athéisme n'est pas un phénomène moderne en soi. L'athéisme est de tous les temps. La Bible s'en fait l'écho. L'insensé a dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu », dit le livre des psaumes. Mais l'athéisme était autrefois l'exception. L'athéisme était une anomalie, une folie. L'insensé dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Et en même temps, le comble mis à la méchanceté de l'homme. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous verrons de plus près ce problème de l'athéisme. Et c'est pourquoi il nous faut nous arrêter sur la question justement de l'existence de Dieu, qui n'est plus évidente pour l'homme moderne comme elle l'était pour l'homme du passé, parce que comme nous l'avons vu, l'homme moderne ne vit plus dans un milieu naturel qui lui parle de la gloire de Dieu, mais l'homme moderne vit dans un milieu technicien qui lui parle de la gloire de l'homme et qui lui occulte la gloire de Dieu. L'homme moderne ne voit plus la nature directement, mais il la voit au travers des instruments de la technique de l'homme. Il la voit sur son écran de télévision, prise au super zoom, et on ne sait ce qu'il admire le plus, ce qui est l'objet de reportage photo ou filmé, ou bien la perfection technique de ceux qui ont pris les vues, etc. Alors, à cause de cela, eh bien, Dieu est absent. Dieu est absent de l'univers de l'homme moderne parce que la création et la nature est absente de l'univers et de l'horizon de l'homme moderne. Et c'est pourquoi il nous faut justement nous arrêter sur cette question de l'existence de Dieu. Nous avons vu que dans l'Écriture, ce problème n'est pas abordé directement. L'existence de Dieu se présente comme un fait. Un fait qui n'a pas besoin d'être démontré, qui n'a pas besoin d'être prouvé, Dieu est. Et c'est justement cela, sa nature. Il est l'être par excellence. Et la foi en Dieu, qui commence, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est vrai, par la certitude que Dieu existe et qu'il est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent, eh bien, cette foi en Dieu n'a pas besoin de preuve de l'existence de Dieu comme prélude. Il faut tout simplement que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est saint, S-A-I-N, il est naturel, il est normal, que l'homme équilibré, d'après la Bible, est naturellement la conception de Dieu et cette foi primordiale que Dieu existe. C'est le contraire pour la Bible qui est anormal. Et c'est pourquoi notre monde moderne est un monde insensé. Non seulement parce qu'il continue à construire des centrales atomiques, comme nous disions il y a un instant, au mépris du bon sens, mais justement parce que l'existence de ces réalités-là, eh bien, l'amène a dit dans son cœur, comme l'insensé du livre des psaumes, « Il n'y a pas de Dieu ». Mais la Bible affirme que l'homme qui rejette Dieu le fait parce qu'il est insensé, mais l'insensé, c'est en même temps un méchant pour la Bible. L'athéisme, pour la Bible, n'a pas de fondement philosophique, mais essentiellement des fondements pratiques et moraux. C'est parce que les impies, les méchants, ne veulent pas rendre à Dieu des comptes de leur conduite, mais veulent être libres de conduire leur vie à leur guise, qu'ils rejettent Dieu de leur vie. C'est pour cela qu'ils s'acharnent à déclarer et à affirmer que Dieu n'existe pas. L'athéisme, selon la Bible, est un athéisme pratique et non pas philosophique. Et en fait, les arguments philosophiques ne sont là que pour appuyer ce qui est essentiellement une démarche éthique, morale, ou immorale plus exactement, qui fait que l'insensé est aussi un méchant, un pécheur, qui veut persister à vivre dans son péché et qui veut nier la réalité du jugement de Dieu, qui veut nier le fait qu'il soit responsable de ses actes devant Dieu. En fait, l'athéisme moderne, c'est aussi cela, en grande partie. Et la libéralisation des mœurs, comme on dit, découle directement de cette négation de Dieu. Et en même temps, c'est un cercle vicieux, car plus les mœurs se dégradent, plus l'homme, eh bien, est amené à nier Dieu, et même à haïr Dieu, parce qu'automatiquement, si Dieu existait, il devrait en tirer les conséquences et changer de conduite, donc se repentir, ce qu'il ne veut pas faire. Encore une fois, pour la Bible, Dieu est connu de tout homme normal, de tout homme sincère et droit. Paul nous dit la même chose dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Dieu se fait connaître à l'homme. Dans la création et justement dans la conscience. Dans la conscience morale, dans la notion que l'homme a naturellement du bien et du mal. Alors on remarquera, et les philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire et autres, ne se sont pas fait faute de souligner combien la notion de bien et de mal est relative d'une civilisation à l'autre. Et c'est Voltaire, je crois, qui disait vérité au-delà des Pyrénées et erreur au-dessa, ou c'était Pascal plutôt, je crois, qui paroliait justement un certain nombre d'adversaires de l'Évangile, vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-dessa. Ça veut dire que la vérité morale en particulier est quelque chose de tout à fait relatif. C'est vrai, mais c'est vrai, nous dit la Bible, parce que la conscience de l'homme est obscurcie par le péché. C'est vrai qu'il y a des civilisations où on considère normal des choses abominables, mais il s'agit alors d'une perversion de la conscience morale. Mais ce que Paul veut nous dire, c'est que, quelles que soient les variations justement de la notion du bien et du mal, en fonction des païens et de justement des ténèbres du péché, l'homme garde quand même dans sa conscience l'idée qu'il existe quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal, même si il ne sait pas très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Paul nous dit, il y a des moments où sa conscience le reprend. Et tout homme connaît ces moments où il est repris dans sa conscience. Encore une fois, même si cette conscience-là est devenue très élastique. Et quelle est cette réalité de la conscience morale? Eh bien, c'est la voix de Dieu qui lui parle. C'est la révélation de Dieu dans son cœur qui se manifeste de cette manière-là. Or, justement, eh bien, cette notion de conscience morale aujourd'hui, vous le savez, est aussi une des réalités qui est battue en brèche. Il n'y a plus ni bien ni mal. Et pour quelle raison? Eh bien, essentiellement aussi à cause des progrès de la technique. C'est pourquoi le gros problème aujourd'hui, c'est le problème de la technique toute puissante, on peut dire la technique divinisée, en fin de compte, qui fait que tout ce qui est faisable techniquement, tout ce qui est réalisable techniquement est neutre. Ça n'est ni bien ni mal. À la limite, c'est même bien. Les bébés éprouvettes, les mères porteuses et tout ce qui s'ensuit. On a encore quelques petits scrupules à ce niveau-là, mais qu'on se rassure et qu'on patiente, d'ici quelques années, tout le monde trouvera ça normal. Puisque c'est réalisable, eh bien c'est que c'est bien. Par conséquent, l'homme perd la notion du bien et du mal, perd même la notion qu'il puisse y avoir quelque chose de bien et qu'il puisse y avoir quelque chose de mal. Et mal, tout simplement, ce qui n'est pas encore, ce qui n'est pas possible de réaliser. Mais le jour où on parviendra à le réaliser, ce sera bon. On voit par exemple le problème de l'avortement. À partir du moment où eh bien, ça peut être réalisé dans des conditions techniques acceptables, eh bien, c'est devenu bon et il n'est plus question maintenant de revenir en arrière. C'est un fait qui est acquis et on ne retourne pas en arrière. Et c'est une deuxième raison justement pour laquelle l'athéisme est aujourd'hui la base de notre civilisation et de notre société. Premièrement, nous l'avons vu, parce que l'homme ne vit plus dans un environnement naturel, mais dans un environnement technicien. Et deuxièmement, parce que cet environnement technicien tue en lui la conscience morale. Alors les deux sources de la révélation naturelle se trouvent obscurcies. La révélation de Dieu dans la nature et la révélation de Dieu dans la conscience. Et ont tous la même cause. Pourquoi, entre parenthèses, sur le plan pratique aussi, l'invasion, la toute-puissance des techniques est une des idoles aussi contre lesquelles les chrétiens doivent s'insurger. Encore une fois, non pas vivre, comment dirais-je, comme les hommes des cavernes, quand même n'est pas là, mais eh bien, lutter contre une invasion et contre une trop grande emprise des techniques sur la vie des hommes. Et ça, c'est un autre domaine que je livre à votre réflexion. Par conséquent, la Bible, avec son message, devient aussi pour l'œuvre d'elle quelque chose d'incompréhensible. Le péché, la grâce, le pardon, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui pour l'homme moderne, précisément à cause de cette évolution irréversible-là, et cette évolution qui nous conduit tout droit vers le monde de l'Antichrist, qui nous conduit tout droit vers ce temps où l'homme se proclamera lui-même Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et par contre s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, nous pourrions nous dire, si la Bible ne prend pas la peine de prouver l'existence de Dieu, pourquoi nous prendre la peine de nous arrêter sur cette question ? Vaut-il la peine d'essayer de prouver l'existence de Dieu ? Oui, précisément à cause de cette évolution que nous évoquons là, à cause de cette omniprésence de l'athéisme. Et s'il est vrai que nombreux sont les athées pratiques qui ne veulent pas de Dieu par a priori parce que l'existence de Dieu les dérangerait dans leur vie quotidienne et dans leur vie pratique, et par conséquent avec cela il est inutile de discuter, il en est toutefois d'autres qui doutent sincèrement de l'existence de Dieu. Certains qui cherchent Dieu et qui doutent sincèrement de son existence. Alors pour cela, il vaut la peine de se pencher sur la question de l'existence de Dieu, même si, il est vrai, c'est plus une question morale qu'une question intellectuelle encore aujourd'hui, tout comme ça l'était hier à l'époque de la Bible. Deuxièmement, nous ne sommes pas des étrangers à ce monde technicien. Nous y vivons. C'est notre monde, c'est notre univers. Et nous pouvons, nous aussi, parfois, être atteints par l'esprit qui est à l'œuvre dans ce monde. Il vaut donc la peine de s'arrêter sur la question de l'existence de Dieu pour fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. La foi est quelque chose d'infiniment précieux. L'apôtre Pierre nous parle de quelque chose qui est plus précieux que l'or périssable, dira-t-il. Et si la foi est réellement ce trésor si précieux, eh bien, nous devons être prêts à faire accueil à tout ce qui est propre à la fortifier. Plus notre foi sera forte, plus notre foi sera solide, plus nous serons nous-mêmes forts dans ce monde, et plus aussi nous pourrons voir la gloire de Dieu. Parce que cette réflexion nous amène à enrichir notre connaissance de la nature de Dieu, de ce qu'est Dieu en fait. Où allons-nous chercher ces preuves de l'existence de Dieu ? Dans trois directions. Dans la création, nous l'avons vu il y a un instant. Dans la nature humaine et dans l'histoire. Il y a, dans la théologie classique, cinq preuves de l'existence de Dieu. Alors, on dira, mais si ces cinq preuves de l'existence de Dieu sont si évidentes que cela, comment y a-t-il encore des athées ? Et nombreux sont ceux qui ont attaqué ces cinq preuves de l'existence de Dieu en disant, depuis le temps que l'on avance ces cinq preuves, il continue à y avoir des athées, même il y en a de plus en plus, alors il faut conclure que ces preuves ne sont pas aussi convaincantes que cela. À cela, la réponse est simple. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et à partir du moment où, pour des raisons pratiques, des raisons morales et éthiques, quelqu'un a décidé que Dieu n'existait pas, comme le disait Jésus aux mauvais riches qui se trouvaient dans l'enfer, ils ne croiront pas quand bien même quelqu'un d'entre les morts ressusciterait. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, et s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas, même si un des morts ressuscité pour leur dire ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Alors nous sommes exactement dans cette situation-là. Et c'est pourquoi, pour nous croyants, pour nous qui voulons sincèrement nous mettre à l'écoute et à la recherche de la vérité, ces cinq preuves sont encore des preuves qui sont valables. La première preuve, bon, on l'a déjà esquissée à plusieurs reprises, je ne m'étendrai pas beaucoup, c'est la création. Une création parfaite, ou plutôt une création, sinon parfaite, du moins merveilleuse comme celle qui nous entoure, harmonieuse, doit avoir une cause première. C'est précisément une des preuves qui a toujours été incontournable par tous les athées de tous les temps. Déjà, des philosophes grecs athées tels Démocrite ou bien Lucrèce, à l'époque romaine, se sont heurtés à cette question de la cause première. Et les athées, les philosophes athées, s'évertuent toujours à essayer de trouver des causes à l'univers qui ne sont pas liées avec l'existence de Dieu. Et depuis justement tous ces philosophes-là, on a toujours fait appel au hasard. Que ce soit donc depuis l'époque de Démocrite jusqu'à l'époque des évolutionnistes, jusqu'à Monod par exemple, qui a écrit en son temps, il y a une quinzaine d'années, un livre qui avait fait grand bruit, mais qui n'apportait rien de nouveau sur le plan philosophique, qui se nommait « Le hasard et la nécessité », eh bien on a prétendu que l'univers était le fruit du hasard. L'univers était un ensemble de forces aveugles, de matière, d'énergie qui, par le jeu des atomes, soudain, par le plus grand des hasards, il y a eu l'étincelle qui a provoqué le Big Bang initial, et puis tout s'est mis en route comme ça, par les lois du hasard. D'abord, ça implique une durée extrêmement importante, d'où justement les durées considérables qui sont données, par exemple, au temps géologique et autres, aux phénomènes d'évolution, etc. Maintenant, comme l'a fort bien remarqué Jean Rostand, qui était un athée, mais un athée honnête, et Jean Rostand disait, tout cela c'est un conte de fées pour grande personne, car jamais on a assisté sur le plan scientifique à une de ces mutations, pour reprendre le raccourci, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, que les évolutionnistes eux-mêmes rejetteraient, n'est-ce pas, l'homme descend du singe, on n'a jamais vu une guenon donner naissance à un homme. C'est caricatural ce que je dis là, mais c'est en gros ce que Jean Rostand dit. Ça, c'est un fait contre lequel on ne peut rien faire. Il y a une fixité des espèces, que ce soit des espèces animales ou que ce soit des espèces végétales, qui nie justement la doctrine de l'évolution. Et enfin, même si on pouvait prouver l'existence de une semblable évolution, alors il faudrait, n'est-ce pas, un tel ensemble de hasard et de calcul des probabilités. Déjà Pascal, qui a été le premier à mettre au point le calcul des probabilités, a été le premier à noter finalement que la probabilité pour que l'univers naisse de rien, n'est-ce pas, était pratiquement infime, et qu'à partir ensuite de cet univers chaotique que l'on arrive justement à la perfection dans le domaine par exemple de l'homme, l'organisation de l'homme, de la pensée, etc., que les chances, si on les ajoute les unes aux autres, sont pratiquement infimes. Si bien que, comme le disait Jean Rostand, quand il parlait justement de la foi d'un incroyant, il avait raison, l'athéisme est une véritable foi. Il faut davantage de foi pour être athée quand on se penche sur le problème d'un point de vue philosophique que pour être croyant.